Buonasera a tutti, vi saluto a nome dell'Orfignio Vieta per questa serata in due tempi. Noi abbiamo un primo tempo dedicato alla presentazione di questa pubblicazione, che è stata curata da Simone Biondo e che raccoglie i contributi dei relatori che erano intervenuti nell'ottobre del 2017, proprio in questa sala, dove avevamo tenuto una mattinata di studio sulla stampa d'opinione. Quindi è doveroso da parte mia un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa pubblicazione, in particolare all'editore Sardioni e anche alla città di Bellinzona, che non solo ci ospita ma che ci ha sostenuto in questa nostra iniziativa. La pubblicazione, per chi fosse interessato, è disponibile, è dedicata a due personalità che ci hanno lasciato negli ultimi anni, Sergio Sardioni e Pio Varchi, che furono protagonisti in questa stagione editoriale di questi anni, in cui le opinioni erano ben precise e ben diffuse attraverso i canali di partito, gli organi ufficiali. Ma oggi questa diffusione non è più data dagli organi di partito, che languono, ma da altri canali, sempre in modo sicuramente tempestivo, ma non sufficientemente chiaro per capirne la collocazione. Quindi sono informazioni che vanno, che restano poco e che vengono sostituite immediatamente da altri. Ma del discorso della stampa di ieri qui abbiamo una bella traccia, e della stampa di oggi invece abbiamo il piacere di avere con noi, con Monica Pizzaretti, che condurrà la serata, e la ringrazio, Jacques Pilet, che è una personalità nell'ambito dei media, del giornalismo, ha operato soprattutto in Romandia, e l'intervento di Pilet, che seguirà la breve presentazione appunto di questo testo, tratterà soprattutto il discorso della libertà di stampa e fa parte del ciclo che il Club Pigno Vieta ha lanciato da alcuni mesi sul tema di libertà e sicurezza, no? Quindi la contrapposizione tra questi due termini. Questa sera avremo modo appunto di cogliere il significato soprattutto nell'ambito giornalistico, dove anche in Romandia si stanno chiudendo delle testate e mettono probabilmente in dubbio anche la libertà di comunicazione e di diffusione dell'opinione. Ecco, con questo breve saluto da parte mia, ringraziando ancora una volta la moderatrice e il nostro relatore, do la parola a Simone Giannini, che qui rappresenta la città di Bellinzona, per un saluto. Appena terminato il saluto dovrà partire, perché gli impegni politici si succedono in questo periodo, non è candidato, diciamo subito, nel Gran Consiglio, però ha un impegno legato al Consiglio Comunale della città. Quindi Simone, ben volentieri ti do il microfono. Grazie a tutti.
Grazie Diego, caro Presidente. Cari membri di comitato del club, cara Franca, stimato senatore, cara moderatrice, gentili signori, egregi signori, è un piacere, sono ormai un abitué che vi porto il saluto della città di Bellinzona a questa vostra iniziativa, a questo vostro evento che tenete ancora una volta, ricordo era il 2017, proprio ricorre la presentazione degli atti di quella mattinata di studio nella nostra bella sala del Consiglio Comunale. Tra l'altro ho visto anche tuo papà Franca negli anni 40 sicuramente qui protagonista, prima come consigliere comunale, poi come municipale, vice sindaco. Ricorre penso il 60° guardato un po' la biografia da chi ha terminato l'attività in municipio, poi chiaramente folgorante anche in altre istituzioni cantonali in particolare. Ecco, io vi porto il saluto volentieri, è stato sottolineato, abbiamo dato anche un contributo e lo facciamo volentieri. Lo facciamo volentieri perché iniziative come queste permettono di fermarsi un momento, riflettere, parlare ancora di cultura politica, ed è importante che una città come quella di Bellinzona, che esce adesso da un'aggregazione quindi relativamente giovane, al suo interno abbia ancora la possibilità di dibattere a fronte di un mondo moderno, l'abbiamo detto anche 2 anni fa, che va molto veloce, le notizie sono spicce, la stampa d'opinione, il tema del libro è diventata una rarità. Questa sera, mi scuso, poi dirò anche perché, non è consiglio comunale, abbiamo in corso proprio la seduta settimanale di municipio, quindi è per questo che arrivo ora e dovrò subito partire, ma ci tenevate a che si portasse il saluto. Mi spiace non poter seguire l'esposizione di Jacques, perché sicuramente il tema è d'attualità ed estremamente interessante. Una breve riflessione anche da parte mia, libertà versus sicurezza, immagino in questo caso, non so Monica cosa avrà preparato, ma sicurezza in particolare anche economica, perché i conti devono poi quadrare per le nostre testate giornalistiche, saluto il direttore della regione Ticino in sala, e stiamo osservando anche in Ticino un accorpamento in, chiamiamoli, gruppi editoriali o delle diciamo delle situazioni che portano anche testate come la regione a trovare delle soluzioni per poter far quadrare i conti e continuare con la propria attività. È vero che questo porta poi a dei rischi, a che la libertà di espressione delle singole testate o di chi vi lavora non siano sempre date nel migliore dei modi. E questo è da evitare, ed è evitare perché che la stampa, che chi vi lavora abbia la libertà di potersi esprimere e non si veda, come è capitato anche nella Svizzera romana, ho letto anche la sua biografia, magari chiusi nella testata perché il grande gruppo editoriale ha tutt'altre opinioni. Ecco, questo per la nostra libertà, la nostra democrazia è fondamentale che non succeda. Piccoli aneddoti, anche noi qui abbiamo, anzi siamo, diciamo spesso, sovradimensionati per copertura mediatica. Adesso ci sono i social network che vanno per la maggiore e non sempre si vede chi c'è dietro, perché se è vero che le testate giornalistiche sono ancora lì con un editore e una proprietà, anche se non conosciuta direttamente, ma presente, fisica, ecco, con i social media questo viene ancora più a mancare. Quindi io quando ho letto, poi magari non è vero, che miliardari svizzeri, penso a Christoph Blocher, avrebbero allocato delle somme su Ticino News piuttosto che Ticino Online, lo direi tu Matteo, se corrisponde alla realtà, ecco che mi fa un po' pensare che poi quegli articoli che escono, anche se puntuali, siano poi liberi nella loro espressione. Breve riflessione iniziale, non potendola farla alla fine, ringraziandovi ancora per il vostro contributo alla cultura anche cittadina, vi auguro una buona serata.
Grazie a Simone Giannini, iniziamo la nostra serata e saluto il nostro gradito ospite Jacques Pillet, che è un giornalista di lungo corso, è stato fondatore delle Due, fondatore del Lungo Quotidien, che oggi è diventato Le Temps, che è l'ammiraglia fra i giornali nella Romandia, è una persona che ho conosciuto tanti anni fa, gli anni 90, lui si è battuto molto sulle questioni europee, sul nostro paese, conosce la Svizzera, ama la Svizzera e non ha finito di sorprenderci perché mi ha detto che scrive ancora, ma adesso scrive anche libri e avrà ben presto qualcosa da dirci anche a noi come cittadini. Io non voglio questa sera ripresentare quello che avete fatto nel convegno. C'è questo libretto molto bello, tra l'altro, che vi consiglio, chi non l'ha letto, chi non ha seguito il convegno, di veramente acquistarlo qui, 20 franchi vale la spesa, perché è un libro che ha un grande pregio, un libro che fa opera di memoria, ci dice com'era l'epoca dei giornali di partito, delle polemiche, ma polemiche con la P maiuscola, dove personaggi di cultura con la loro matrice ideologica si confrontavano nel rispetto reciproco, anche in modo molto forte, colorito, però sempre nel rispetto delle regole a favore di una democrazia vivace. Quindi questa fotografia che il Club Plinio Verda ha fornito grazie al lavoro di Simone Bionda, che ha raccolto, e i vari autori che si sono cimentati nel ricordare quest'epoca, è molto importante. È opera di memoria che serve a noi, perché oggi il capezzale non è più quello delle testate di partito, ma il capezzale di quelle testate che hanno sostituito i giornali di partito. Oggi la stampa indipendente, nata o sopravvissuta a quest'epoca, è in grande crisi. Allora, quello che vorrei, prima di dare la parola e fare una sorta di colloquio-intervista con Jean Pivet, è immergervi un po' nell'ambiente che è quello che vivono oggi i mass media. Non so, alcuni di voi sono giornalisti, alcuni di voi conoscono l'ambiente delle redazioni, nei mass media si discute sul futuro, sul presente, su quel che è. Ecco, vorrei immergervi un attimino, prima di appunto dare la parola a Jean Pivet, in quel che è l'atmosfera attuale, perché è un'atmosfera di una belle epoca che va finendo, anche la nostra belle epoca, quella che degli anni 90, degli anni 2000, sta mutando pelle. I giornali oggi si trovano su un crinale pericoloso, sono in bilico tra le entrate degli abbonamenti, che stanno diventando la fonte numero uno di entrate, e i ricavi pubblicitari, che stanno drammaticamente riducendosi. Noi li credevamo eterni, era una formula, abbonamenti e pubblicità, che pensavamo avrebbe resistito ancora nel tempo. D'altronde ci arriva dalla fine del 700, l'800, il 900, ci ha accompagnato e funzionava bene così. Poi noi siamo una generazione, almeno io, non digitale, e quindi prima di capire in che razza di processi saremmo finiti, ecco che chiaramente immaginavo che saremmo sopravvissuti tranquillamente, invece no. Oggi le testate cartacee vengono bypassate spesso dai pubblicitari, che vanno sul mirato e vanno sul digitale. Di qui la ragione economica, qualcuno citava prima come vivono le aziende oggi, di un impoverimento di queste gloriose aziende editoriali, e spesso da queste ne conseguono drastiche decisioni di riduzioni del personale, dei costi o addirittura chiusura dei battenti. Di qui anche la ragione o le ragioni delle concentrazioni aziendali e del pluralismo. Pluralismo vuol dire anche libertà d'opinione, differenziazione, più voci, che perde purtroppo pezzi, e qui entriamo nel tema. Chiaramente pluralismo vuol dire anche più libertà di espressione, questo si può discutere, ma probabilmente è più facile con più voci avere un'idea, un panorama più variegato di cosa succede attorno a noi. Quindi noi siamo adesso spettatori di una metamorfosi inimmaginabile. Io che lavoravo dentro, lavoro ancora, sono molto a contatto con questo mondo, quello che sta succedendo non me lo sognavo. Ecco, adesso lo capisco, cerco di seguirlo, sono sorpresa da ogni novità quasi quotidiana, perché la digitalizzazione praticamente chi lavora nella comunicazione nei mass media si trova al centro del vulcano, direi. Quindi cosa succede? Oggi la carta soffre, i cristalli liquidi in tutte le forme la fregano, arrivano prima, l'online arriva prima, magari arriva male, magari frammenta l'informazione, la disarticola il pensiero, l'informazione, però arriva prima e arriva soprattutto comodamente, arriva su tutti i supporti elettronici, penso che ormai tutti avete telefonini e quant'altro, tablet, eccetera. Quindi la rapidità batte, almeno per ora, la qualità. Tutto è subito, tutto istantaneamente. Di più, lo sapete, conoscete anche voi il termine fake news, il vero si è fatto meno distinguibile dal falso, anzi spesso non lo si distingue proprio. Tutti scrivono, tutti commentano, postano, bloggano, siamo alla liquidità e bisogna vedere dov'è la verità. Si parla anche già di post-verità. Quindi il giornalista che una volta maneggiava questi suoi strumenti professionali e dava l'informazione secondo delle regole deontologiche, da tanti è ritenuto ormai superfluo, non di rado figura sospetta, e le persone pensano: mi informo io, capisco io, non mi faccio manipolare, di te non ho più bisogno, l'informazione me la prendo io, soprattutto non la pago, non la pago. Quindi la coscienza che una buona informazione debba costare non l'hanno tutti, anzi l'hanno in pochi. È un'illusione chiaramente, però un'illusione diffusa. Vi sono poi in parallelo altri poteri che accarezzano la brezza che spira oggi sul web: informazioni e grandi dati, masse di dati, famosi big data, danno potere da sempre è sempre stato così, l'informazione è sempre stata potere, ma oggi più di prima. Quindi c'è chi questo potere se lo prende e attraverso il cumulo di questi dati può anche influenzare l'informazione, raggiungere in modo mirato le persone e praticamente influenzarle senza che queste neanche si accorgano. Il caso, lo scandalo Cambridge Analytics è un bel esempio di quello che era successo, no? Tanti profili individuali avevano portato alla creazione di informazioni poi individuali, quindi lì libertà stava cominciando a ridursi. È stato un bello, uno scandalo importante che ha segnato forse l'inizio di una presa di coscienza anche in chi vedeva nella tecnologia e in internet soprattutto il crescere dal basso, la libertà soprattutto. Ma veniamo noi, veniamo alla nostra Svizzera. Anche nel nostro paese le storiche testate che hanno garantito la capillare pluralistica vitalità di una democrazia soffrono, faticano, muoiono, mutano, diventano cartacei o digitali e sempre più digitali. Ci provano, ma non sanno bene dove andranno a finire. Stanno tentando, no? Stanno facendo dei progetti, dei passi, si prova, alcuni riescono, altri no, ci sono sempre delle novità. Purtroppo da noi, abbiamo visto, il Giornale del Popolo ha chiuso, magari anche per altre ragioni, però insomma una testata se n'è andata. I giovani da noi leggono 20 minuti, in Romandia 20 minuti, in Italia tedesca 20 minuti. Diciamo i lettori giovani sono sul digitale, anche i miei figli, se devo chiedere come si informano in altro modo, non come mi informo io. Quindi il futuro è tutto da indovinare. La Romandia, del nostro ospite, e qui arriviamo, è la regione che ha pagato fin qui il conto più salato, forse più manifesto per il nostro paese, perché ha perso tante testate, ma soprattutto ha perso la storica ammiraglia molto identitaria, il magazine Lebdo, che Jacques Pillet aveva fondato, e ancora oggi lungo il viale della stazione ho incontrato un paio di amici che mi dicevano, non magari non potevano venire qua, ma dicevano: io ero abbonato, qualcosa è mancato anche a noi, perché leggevamo volentieri in francese, magari un settimanale che era fatto veramente bene. Poi è scomparso anche il tabloid Le Matin, quello che colorava i caffè e i bar della società romanda, che aveva un occhio popolare su quella comunità. Non c'è più, ecco. E anche, oltretutto, ci sono adesso i quotidiani che sono sopravvissuti, Le Temps, La Tribune, e altri che sono stati comunque ristrutturati. Quindi, insomma, c'è la cura dimagrante è arrivata. E il grosso delle carte, e qui veniamo anche al tema, è oggi nelle mani di un solo editore, Tamedia, con sede a Zurigo, possiede, oltre a 20 minuti, anche La Tribune, 24 ore, Le Matin Dimanche, Le Temps. Le Temps è nelle mani della Ringier. Ecco. Queste sono un po' le carte che ci sono sul tavolo romano. Poi ci sono tutta una serie di editori locali, Willis, l'Arc Info, che è nato da una fusione, la Liberté di Friburgo, però diciamo fondamentalmente i due editori svizzero-tedeschi sono quelli che fanno la parte del leone. Ecco. Quindi ringrazio voi che fate questa opera di memoria, ripeto, con questo libro, con questi interventi, per far capire come un'epoca può finire, ma bisogna interrogarsi su cosa segue, e quella successiva sta finendo e noi la stiamo vivendo diciamo proprio sotto i nostri occhi, e bisognerebbe forse riuscire a contribuire a risvegliare le coscienze individuali di chi consuma. notizie, perché sono dei consumatori di notizie che dovrebbero avere forse un attimino più di idea di cosa vuol dire ricevere notizie, anche quelle politiche, prima che sia troppo tardi o che cambino, diciamo che molte altre testate finiscano per mettere la chiave sotto lo zerbino, sul paillasson, come dicono i francesi. Perché, qui arriviamo alla conclusione del mio intervento, l'informazione made in Switzerland ha a che vedere, e non poco, con la nostra democrazia diretta e non, e quindi lo Stato non dovrebbe guardare da un'altra parte o restare ai bordi a guardare che cosa succede finché la bufera è passata. Probabilmente non basta il canone alla SSR e poi le ripartizioni alle emittenti private. La stampa è un'impalcatura importante della vita democratica della nostra confederazione. Ci affidete, quo vadimus, dunque, dove andiamo a finire? Comincerei con la fotografia romanda. Abbiamo visto cosa è successo, come ha vissuto tutto questo, da protagonista a vedere un Edo che chiude, un Le Matin. Cosa ha sentito e cosa pensa dell'evoluzione? Lui parlerà in francese, penso che tutti capiate, vero?
Merci. Permettez-moi d'abord de vous saluer, chers amis, je peux le dire. Je suis plein d'admiration pour ce que vous faites, pour ce club, pour cette façon d'aborder les problèmes. Il faut qu'on se mette ensemble entre Suisse italien, Suisse roman, Suisse alémanique, pour d'abord faire un diagnostic, et vous l'avez déjà assez largement fait tout à l'heure, mais surtout pour essayer d'imaginer ce qui peut venir demain, ce que l'on peut faire. Il ne suffit pas d'avoir un constat d'une situation inquiétante, il faut qu'on échange des idées pour résister à certaines tendances. J'ose dire que nous avons besoin d'une résistance. Alors évidemment, si on fait un tableau de la situation, elle est très différente d'une partie à l'autre du pays. Vous l'avez dit tout à fait justement, la Suisse romande a été très touchée par l'abandon de titres importants comme l'Hebdo, comme Le Matin, qui jouait également un rôle, notamment un rôle pour unir cette Suisse romande qui est très divisée entre les différents cantons. L'Hebdo était une voix romande, Le Matin était un journal populaire roman, et c'est un problème de voir ces voix s'éteindre. Alors heureusement, il faut quand même dire qu'il reste le temps fait ce lien entre les différentes régions, mais voilà, le temps donc qui est né de la fusion du Nouveau Quotidien, que nous avions créé, et du journal de Genève. Là, on a un outil qui est encore important, mais il est très fragile pour toutes sortes de raisons économiquement. Heureusement qu'il y a beaucoup de bois, on peut toucher du bois pour l'avenir du journal Le Temps. Mais surtout, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, les trois quarts des journaux lus par les romans sont la propriété d'un groupe de presse zurichois, Tamedia. C'est évidemment quelque chose de tout à fait nouveau dans l'histoire de la Suisse romande, n'est-ce pas? Nous avions des éditeurs genevois, lausannois, qui avaient des ambitions romandes. Il y a eu un journal qui a aussi disparu depuis longtemps, comme La Suisse, qui s'adressait à tous les romans. Et ces éditeurs romands ont jeté l'éponge, comme on dit en français, ont abandonné et ont tout vendu à un groupe zurichois. Alors quels sont les effets? Et là, ça nous renvoie déjà à la situation aussi en Suisse alémanique. Tamedia est un grand éditeur qui a pour principal objectif d'abord de faire du business, et la vocation journalistique et civique de ses titres, si on a une, très bien, si on n'a pas, tant pis. Et alors, ce qui s'est passé très concrètement, c'est que ce groupe de presse a créé des usines à journaux. On les appelle newsroom dans le jargon, c'est-à-dire qu'on fait des grandes rédactions avec des journalistes rassemblés qui produisent des contenus, on ne parle plus d'articles, on parle de contenus, et ces contenus sont répartis entre différents titres. Alors, on connaît le phénomène en Suisse alémanique, où, par exemple, la politique étrangère, eh bien, elle est traitée à un endroit et on la distribue aux différents journaux régionaux du groupe. Il se passe la même chose en Suisse romande, où, notamment entre 24 heures, la tribune de Genève et le matin dimanche, qui reste voilà, très important, eh bien, on a une grande rédaction où on fait tous ensemble, puis on repartit les... Alors, on aboutit à des situations absurdes. Par exemple, la rubrique étrangère, politique étrangère, tout est fait à Lausanne. Alors, on avait des journalistes de politique étrangère à Genève. C'est pas un mauvais endroit pour être journaliste de politique étrangère, d'être à Genève, hein. On a peut-être des contacts, non. Alors, ces malheureux journalistes, ils prennent le train tous les matins pour aller de Genève à Lausanne, pour poser leurs fesses devant un ordinateur, faire leur travail et rentrer le soir à Lausanne. C'est évidemment une évolution complètement aberrante. On ne cesse de dire que les moyens de communication permettent la décentralisation, la souplesse du travail. Non. Voilà un éditeur, il veut concentrer les rédactions. Est-ce que ça coûte vraiment moins cher? Moi, j'ai des doutes. Parce que ce qui se passe, c'est un phénomène interne au métier, mais même les non-journalistes peuvent comprendre, je crois, ce qui se passe. Lorsqu'on a une toute petite équipe de journalistes, on se responsabilise un maximum. S'il y en a un qui a la grippe, c'est un problème. Comment on va faire? Puis on se débrouille, puis on cherche l'idée, puis on discute. Lorsque vous êtes une rédaction avec 100, 200 personnes, bon, si vous avez la grippe, bon, il y aura bien un autre pour faire le boulot, hein. Il y a, je crois, une démobilisation même intellectuelle dans ces grandes entités de production de journaux. Et voilà, c'est ce qui se passe. Alors, heureusement, et vous l'avez signalé, il y a encore des journaux qui se battent pour leur identité, comme La Liberté, par exemple, comme Le Valeureux Courrier, ou même comme Le Nouvelliste, dans, en Valais. Mais ça représente qu'une petite partie du lectorat, et surtout ce phénomène d'abandon de l'identité propre du titre, c'est un phénomène qui se répand. C'est-à-dire qu'on ne s'identifie plus à un titre comme on s'identifiait à un titre autrefois. Alors en Suisse alémanique, ce phénomène d'industrialisation est en cours, mené par les deux groupes dominants, la presse régionale, Tamedia et N77. On verra ce que fait Blorer avec ses journaux gratuits, mais c'est un appauvrissement du regard politique. Car je crois que même en politique étrangère, on ne ressent peut-être pas les choses de la même façon à Bâle, à Berne ou à Zurich. Chacun a sa clé de lecture, ses références. Et c'est tout. Uniformisation du message journalistique, pour moi, est un appauvrissement intellectuel et civique. Et cet appauvrissement intellectuel et civique, il est encore accéléré par la politique, notamment de TA Media, qui a misé sur les journaux gratuits, sur 20 minutes. Il faut voir ce qu'on parle de 20 minutes. On ne le considère pas parce que bon, le café, la, c'est pas important. Mais n'oublions pas que beaucoup de gens, le matin, s'informent avec 20 minutes, que ce soit sur leur portable ou sur le papier. Or, 20 minutes, c'est un journal qui est un projet délibéré et volontaire d'abrutissement du lecteur. C'est-à-dire que on ne doit pas avoir trop de politique, pas d'idées, des faits divers racontés de la façon la plus banale possible. On n'est pas dans le boulevard. Le boulevard, c'est la recherche d'une émotion, d'une mise en scène, d'une dramaturgie. Il y a un travail journalistique. On peut aimer ou pas aimer, mais il y a un travail journalistique. 20 minutes avale les dépêches de la façon la plus plate possible. J'ai discuté avec un journaliste de 20 minutes en Suisse romande qui me disait « Ah, nous recevons des indications très concrètes. On ne doit pas utiliser plus de 300-500 mots. » Ah, il ne faut pas qu'il y ait un mot qui surprenne. Il faut bien abâtardir la langue française en la rendant de plus en plus réduite. Mais quand on a bâtardi la langue, on a bâtardi la pensée. Alors, heureusement, il y a des échappatoires, mais je pense que ce projet des journaux gratuits a été dévastateur sur le plan de notre paysage de presse. Je ne vais pas développer la situation suisse italienne, vous la vivez. Moi, de l'extérieur, je suis plein d'admiration pour les journaux qui se battent dans ce, excusez-moi, petite partie de la Suisse. Vous avez réussi quand même à garder ces journaux, vous vous battez pour les faire vivre dans un petit marché, et pour moi c'est vraiment admirable. Il faut des fois se comparer. Si vous considérez à nos portes de l'autre côté de la frontière, surtout en France, que je connais un peu mieux que l'Italie, mais en Italie c'est un peu semblable, vous avez des régions entières de plusieurs millions d'habitants qui ont un journal. Un journal. Vous avez une sorte de désertification de la presse à l'intérieur du pays en France. Et vous, vous êtes là dans votre espace italophone réduit, puis vous battez comme des chevaux, vous regardez des journaux. Moi, je peux seulement vous dire mon immense admiration. Vous êtes mieux lotis qu'en Suisse romande. En Suisse romande, on a des effets de rouleau compresseur que vous n'avez pas encore reconnu. C'est ça, même si un quotidien tessinois vient de disparaître. Il en reste encore, on vous tient les pouces. Mais il faut aller un peu au-delà de nos parcs particularisme et voir les causes profondes de ce qui est en train d'arriver. Alors ces causes, elles sont bien sûr liées à la technologie, à l'évolution économique, notamment par le fait que la presse ont perdu les petites annonces, hein, qui ont quand même été les belles heures de nombreux éditeurs, de nombreux journaux. Il faut bien voir que les éditeurs s'étaient habitués à des rendements extraordinaires, hein. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Dans l'année 2000, par exemple, la publicité boumait, les petites annonces boumaient encore, et les taux de profit des éditeurs étaient très, très confortables, mais vraiment très. Alors évidemment, après, ça devient un petit peu plus dur à s'habituer à des bénéfices plus réduits. Alors, ce qui s'est passé, fini les petites annonces qui ont émigré sur le net, d'ailleurs géré par des éditeurs, en grande partie. Et puis alors surtout, un phénomène dont on n'a pas vraiment encore pris conscience, c'est l'arrivée des pirates américains, d'une pieuvre voleuse, suceuse, qui s'appelle Google, qui est venue sucer les ressources publicitaires. Et aujourd'hui, lorsque vous voulez faire passer un message, vous avez intérêt à payer Google pour référencer votre message sur Facebook, par exemple, plutôt que de payer une petite annonce. C'est plus efficace. C'est évidemment un phénomène qu'on accepte avec une passivité incompréhensible, car ces gens sont des voleurs. Ils ne paient pas d'impôts. Lorsque vous allez dans une petite agence publicitaire, parce que vous avez un produit à vendre, puis vous lui dites, ah, j'aimerais bien une affiche, vous pouvez me faire une campagne d'affiche, mais volontiers, on va vous faire une campagne d'affiche. On va vous facturer la TVA, et puis si l'agence fait un bénéfice, on va imposer le bénéfice. Là, il n'y a pas de TVA et pas d'impôt. Que nous acceptions cette situation est absolument intolérable. Et aujourd'hui, nous avons à l'Union européenne des gens qui se battent pour que, d'une part, ces sociétés soient imposées, d'autre part, qu'elles respectent le droit d'auteur, car c'est la pieuvre suceuse. Elle ne suce pas seulement la publicité, elle suce les contenus, elle suce les articles également. Alors, à l'Union européenne, c'est absolument actuel maintenant. Il y a la volonté d'imposer une taxation de ces groupes et de Google en particulier. Le problème, c'est qu'il y a quelques pays qui freinent, comme l'Irlande, par exemple, parce qu'ils sont très liés à ces grands groupes, mais la volonté est là, elle devrait aboutir. Et puis, il y a des pays qui, isolément, se disent « on ne va pas attendre que l'Union européenne se soit mise d'accord, on va y aller pour nous ». La France, notamment, dépose un projet de loi à la fin de ce mois pour faire une taxation de Google sur le chiffre d'affaires réalisé en France. Et ce projet de loi, s'il est adopté, et il va l'être, sera rétroactif au 1er janvier de cette année. Voilà. Il y a des gens qui prennent les choses en main. Nous, rien. Rien de rien. On n'en parle même pas. Ce qui est évidemment le plus sûr moyen de rien faire. Il ne faut même pas en parler, pas de débat là-dessus. Puis le jour où quelqu'un va en débattre, poser cette question au Conseil national ou au Conseil des États, interpeller le Conseil fédéral, ça va être les cris d'indignation. Non, 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 ne touchez pas à Google. Google a un centre de recherche à Zurich, c'est important, il faut protéger Zurich. Et puis la libre entreprise, ah, la libre entreprise. Hein. Alors la libre entreprise a permis des exils fiscaux fantastiques, qu'on remarque d'ailleurs maintenant, puisqu'il y a comme pas mal de Suisses qui d'un coup ont peur, puis qui se mettent à déclarer leur fortune cachée. Et maintenant, on ferme les yeux sur une distorsion de la concurrence qui est absolument manifeste. Mais il y a tant d'autres causes. Il y a des causes également, j'aimerais insister là-dessus, liées aux habitudes nouvelles d'une grande partie de la population qui s'informe différemment, par le téléphone portable, par toutes sortes d'autres moyens, et qui ne ressent plus le besoin de rester fidèle à un journal avec un abonnement qu'on paye, qui est comme relativement cher. Et il y a une érosion des abonnés et des ventes qui, je le crains, va encore continuer. Elle va ensuite se stabiliser, mais elle va encore continuer à un certain niveau. Donc évidemment, il faut être motivé pour lire un journal, comme d'ailleurs pour lire un site internet indépendant. Mais j'aimerais quand même dire que dans cette évolution funeste, il y a eu des fautes donc des éditeurs, peut-être même du pouvoir politique dans le cas que j'ai évoqué. Il y a une responsabilité aussi des journalistes eux-mêmes. Il faut aussi que nous fassions, nous journalistes, on est quelques-uns dans cette salle, un petit peu notre autocritique. On a reculé le moment de se mettre en cause nos méthodes de travail. On a continué très longtemps de penser qu'on faisait des journaux pour que les gens s'informent sur ce qui se passait dans le monde. C'est pas vrai. Les gens s'informent par toutes sortes d'autres canaux, de la nouvelle brute. Peut-être pas la nouvelle locale, mais la nouvelle nationale, internationale, on l'a gratuitement tout le temps, par différents canaux. Donc ça veut dire que le journaliste, s'il veut justifier sa raison d'être, il doit faire un effort considérable pour traiter cette nouvelle différemment, si elle est importante, en laisser tomber un certain nombre d'autres, et à trouver une façon d'enquêter, d'aller plus loin, une façon de réfléchir à l'événement. Donner l'information sur l'événement, ça ne suffit pas. Il faut se mettre à réfléchir sur l'événement. Qu'est-ce que ça veut dire sur nous? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous demain? Ah oui, ça c'est plus compliqué que de prendre les dépêches, puis faire un joli titre, chercher une photo, raccourcir un peu le texte, puis voilà, hein, la page est partie. Ah oui, oui. Ça, c'est plus compliqué, se mettre à réfléchir. C'est toujours douloureux de réfléchir. D'autant plus qu'on n'est pas toujours d'accord entre nous, et puis il faut des débats. C'est pas du tout ce qui s'est passé dans les rédactions. On a rationalisé le travail, comme on dit, mais on a également stérilisé, finalement, la matière qu'on offrait à nos lecteurs et lectrices. Je crois que en faisant évoluer un autre métier, j'en parlais tout à l'heure à un journaliste de la radio qui disait « mais est-ce qu'il y aura encore des journaux demain ?» Je disais « oui, je crois qu'il y en aura encore. » Les vieux journaux, s'ils ont su s'adapter, ou les nouveaux. Je pense qu'il y aura de nouveaux titres. Je ne sais pas s'ils seront quotidiens, hebdomadaires, je ne sais pas. Il y aura des nouveaux titres, y compris sur le papier. Parce que le papier n'est pas mort. C'est aussi la nouvelle que je voulais vous donner, selon moi, avant de parler peut-être du journalisme online. Il y a un plaisir du papier que même les jeunes qui ont vraiment été complètement éduqués à l'ère du digital peuvent redécouvrir avec les journaux de demain. Qu'est-ce qu'elle vend de demain? Alors, c'est un journal qui a les critères de choix, d'exigence quant au traitement, mais c'est peut-être aussi les journaux qui feront confiance aux deux armes historiques de la communication, le langage et l'image. La langue, l'écriture soignée, réfléchie, et l'image choisie, forte, réfléchie. Or, on n'a jamais lu autant d'images partout, excusez-moi, autant d'images médiocres. C'est des images standards qui sont véhiculées par les annonces de presse. Je vais vous donner un exemple de cette résistance que j'appelle de mes voeux. Un journaliste qui a dirigé l'Hebdo comme rédacteur en chef pendant plusieurs années, Jean-Claude Péclet, brillant journaliste, qui écrit admirablement. Il a pris sa retraite et il se consacre maintenant à la photographie. Il va même jusqu'à pratiquer la photographie argentique avec un vieux relais. Il fait des photos d'une force extraordinaire. Et tout d'un coup, quand on voit ces photos, évidemment, il y met le temps, il y met son cœur, il y met son attention de journaliste. C'est vraiment, il est devenu un grand photographe. Après être devenu un grand journaliste, il est devenu un grand photographe. Mais le poids de ces images, c'est fantastique. Et même lorsqu'il les met dans son fil Facebook, vous défilez vos sujets, et puis d'un coup, vous arrêtez, il y a une photo noir-blanc qui a une densité, il y a quelque chose dans le regard. Une bonne photo. Une bonne photo, c'est important, une bonne photo. Qui se soucie aujourd'hui de faire des bonnes photos? Il y a quel journaux qui essaie? Je dirais même que la NZZ fait un effort à cet égard. Mais c'est pas du tout la règle. On va au plus vite, on va au plus pressé, on va au meilleur marché. Demain, le journal remettra en avant la langue, la force de la langue et la force de l'image. Et seul sur le papier, vous pouvez faire une scénographie du texte et de la photo, en jouant sur le gabarit de la photo, sur la typographie. Vous avez une page, c'est une scène de théâtre. C'est pas une petite lucarne comme ça. Non, c'est un pas de plus. Donc je crois à l'avenir de très bons journaux qui restent à inventer, que vous ne verrez peut-être pas, mais qui viendront un jour, j'en suis convaincu. Donc les journalistes doivent aussi s'interroger. Et puis évidemment, les journalistes aussi ont un peu dormi, ne sentant pas certaines évolutions de la société, et là vous êtes à l'avant-garde, si j'ose dire, au Tessin et en Italie, c'est-à-dire la montée de mécontentement, de refus du système, d'une inquiétude qui se traduit par un repli sur soi. Vous savez ce dont je parle, vous êtes bien placé au Tessin pour savoir ce dont je parle. Vous êtes bien placé aux portes de l'Italie pour voir ce qui s'est passé sur le plan politique avec l'émergence de nouvelles forces politiques. Et là, je pense que les journalistes ont tardé à diagnostiquer ces malaises qui allaient se traduire avec des effets politiques qu'on peut juger d'une façon ou d'une autre. Il ne s'agit pas d'avoir un jugement moral là-dessus, mais il y a un changement politique qui est intervenu. Ce qui s'est passé en Italie se passe aujourd'hui soudainement en France avec une violence absolument incroyable. Les deux phénomènes sont différents. Ils s'enracinent dans les mêmes peurs, dans les mêmes inquiétudes populaires. Mais la façon dont ce phénomène s'est traduit est très différent. En Italie, ça a été très organisé. Pepe Grillo avait dès le départ une stratégie online très très élaborée, et très vite au fond il a canalisé ce mécontentement pour en faire en partie, et la Lega s'est également engagée dans ces processus, et on aboutit à la situation que vous connaissez mieux que moi. En France, pas du tout. En France, c'est vraiment une sorte d'immense rumeur protéiforme, très diversifiée, qui s'est répandue dans le pays sur Facebook. C'était pas organisé, il n'y avait pas un cerveau pour cela. C'était des milliers de petits groupements qui se sont mis à lancer des ordres, des consignes, d'abord contre le prix de l'essence, mais après ça a fini par couper la tête à Macron, ou à peu près. Et le tremblement de terre que ça représente, on n'en a pas encore pris la mesure. Ça fait maintenant quand même des semaines et des mois que tous les samedis, vous avez des manifestations dans Paris avec de la casse, des heurts, et vous avez malgré cela encore aujourd'hui 60% d'après les sondages, 60% de la population qui sympathise avec ces fameux gilets jaunes, malgré toutes les choses comme des fois un peu déplaisantes qu'on a vues chez certains d'entre eux. C'est un phénomène extraordinaire. Il faut dire que les journalistes habituels, mais tous les journalistes, ont été totalement surpris par le phénomène, totalement dépassés. Et si les hommes politiques et les partis traditionnels ont été dépassés, eh bien les journalistes ont été aussi. Hein. Donc je pense que nous manquons parfois un peu d'attention dans l'observation de la société. Alors évidemment, on est dans une situation où les émotions collectives, spontanées ou manipulées, ont des boulevards pour se déferler partout, extrêmement rapidement. Et pour faire un contrepoids, pour résister à certains de ces phénomènes, il faut évidemment d'abord en avoir conscience, et puis utiliser toutes les armes possibles. Alors c'est quoi les armes? Eh bien c'est d'abord, à l'intérieur des entreprises de presse qui subsistent, une volonté des journalistes de prendre plus le pouvoir et moins se laisser dicter leur métier par des technocrates qui souvent n'ont aucune sensibilité journalistique. Hein. À la tête de Théa Média, il n'y a pas un seul journaliste, hein. Pas un seul. Hein. Oh, c'est quand même drôle, hein. Il n'y en a aucun qui a une vraie sensibilité journalistique, ce sont des technocrates ou des juristes ou des comptables. Or, ça c'est leur problème. Je pense que c'est pas un très bon calcul. Je pense que si on dirige une entreprise d'horlogerie, il vaut mieux aimer les montres. C'est mieux. Ça marche mieux en général. Donc si on pouvait avoir des managers de presse qui aiment les journaux, ce serait peut-être un peu mieux. Donc, il faut se battre à l'intérieur des entreprises. Il faut que les lecteurs interpellent les journaux lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec eux. Et puis, il y a d'autres fronts à ouvrir. Et c'est trouver des nouveaux espaces. Alors ça, c'est le grand défi actuel. Il faut trouver de nouveaux espaces d'expression pour garder une diversité d'opinions, une diversité de regards au pluriel. Alors c'est pour ça que, avec quelques amis, après la fin de l'hebdo, on a lancé une petite plateforme très modeste de journalisme online. Très vite, on a été rejoint par des jeunes qui veulent faire du journalisme mais qui ne savent pas où le pratiquer, et nous sommes une association, on n'est pas une entreprise, on est une association de gens qui ont en commun le virus du journalisme. Voilà. Alors, certains travaillent bénévolement, les jeunes sont rémunérés, mais on est une sorte d'objets volants non identifiés qui flottent un peu dans l'espace. On avait un petit local, on a même renoncé au petit local. On se réunit dans des cafés, on se communique par mail et par téléphone, on se déplace d'une ville à l'autre. C'est une nouvelle façon d'imaginer le travail ensemble, journalistique ensemble. Alors évidemment, c'est très désécurisant, parce que c'est évidemment très précaire, et surtout pour les gens qui espèrent gagner leur vie avec ça. Mais c'est en même temps très stimulant, et on essaye justement de trouver aussi des nouvelles façons de raconter les choses, de faire des bons textes, mais aussi des animations vidéo. Il y a par exemple une journaliste, vous entendez peut-être parfois, parce qu'elle fait toutes les semaines une chronique, je crois que c'est sur la deuxième chaîne, Tédoué. Elle fait un petit résumé de la vie culturelle en Suisse romande, Anna Lietti. Elle fait une chronique sur l'évolution du langage, sur les mots, qui est absolument délicieuse, pleine d'humour. Et puis elle fait une petite vidéo avec des dessins d'une très bonne dessinatrice. Ça s'est jamais fait, hein, nulle part. Hein. On essaye de faire des choses nouvelles comme ceci. Mais tout ça est une très, très, très modeste entreprise. Nous ne sommes pas à la hauteur des sites online suisse-alémaniques comme République, qui alors évidemment a une équipe permanente, des beaux locaux. Voilà, c'est tout à fait différent. Ils ont aussi une ambition de réinventer le journalisme. Nous, on avance à tâtons dans une boutique un peu évanescente, un peu dispersée, mais c'est très stimulant. Comment est-ce qu'on se finance ? On pose sans cesse la question. Alors au début, on a fait un appel au public, un crowdfunding comme on dit, qui a assez bien marché. On a eu un petit capital de départ qui nous permettait de payer l'entreprise informatique qui construisait le site, puis qui nous a permis de payer les premiers frais, et puis qui nous donne un petit coussin, une petite garantie. Et puis à part ça, c'est les lecteurs. Alors on a trouvé un nombre modeste d'abonnés, mais très fidèles, qui payent 8 francs par mois, 96 francs par année. Beaucoup donnent d'ailleurs plus, ils font un abonnement de soutien, pour nous permettre d'exister. Alors évidemment, c'est pas la bombe, le succès spectaculaire, mais c'est une petite pousse très encourageante, parce qu'on voit que des gens très différents, des jeunes, des vieux, c'est très différent notre public, ils ont envie d'autre chose, ils ont envie d'un autre ton, ils ont envie d'autres images, et ils sont prêts à débourser le prix de 2 cafés par mois pour avoir ça sur leur téléphone ou sur leur ordinateur. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que les jeunes qui travaillent avec nous, qui sont pleins dans le digital tout le temps, commencent à nous dire « ce serait quand même bien si de temps en temps on pouvait faire une publication papier. On pourrait peut-être faire une fois un mensuel papier. » C'est quand même intéressant ces pages qu'on tourne. Comme ça, avec la main. Ça a un charme aussi, qu'on peut peut-être redécouvrir demain. Alors voilà, pour notre modeste contribution au débat, je crois qu'on doit tous se rendre compte qu'on ne peut pas être des citoyens ballottés par ces tendances actuelles, par ces emballements. Je pense qu'on peut être aussi des citoyens imaginatifs, résistants et actifs. Je pense par exemple que nous avons les moyens, tous, politiquement ou médiatiquement ou comme simples citoyens, maintenant de commencer à faire une pression sérieuse sur le pouvoir, sur la Confédération pour qu'elle prenne cela en main. Inutile d'aller demander à la Confédération qu'elle nous aide les journaux par des subventions. Bien sûr, la Confédération peut alléger les tarifs postaux, bien sûr, mais c'est pas ça qui va sauver les journaux. On l'a vu en France, où les journaux ont été couverts d'aides, ça les a pas empêchés de décliner. Non, je pense qu'aujourd'hui, le pouvoir public peut faire deux choses. C'est d'abord consacrer de certaines sommes à l'innovation dans le domaine médiatique. Il y a quelques centaines de millions qui sont prévus ces prochaines années pour l'innovation technologique en général, pour le passage au digital, aider les entreprises à passer au digital et faire de la recherche dans le domaine digital. C'est un beau projet. Eh bien, je pense qu'une part de cet effort devrait se porter sur l'innovation dans les médias. Ainsi, les médias qui auraient des projets d'exploration de nouveaux moyens, nouveaux supports, pourraient avoir une aide à l'innovation. Ça, c'est ce que pourrait faire la Confédération, puisque peut faire la Confédération, mais ça, je veux pas revenir à ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, enfin, engager le combat pour une juste imposition de la pieuvre suceuse. Voilà, on est déjà un peu long. Peut-être que un mot sur les fake news, si vous voulez.
D'accord, ouais.
On dit sans cesse, oui, on a besoin du journaux pour prévenir contre les fake news sur Internet. Bon, moi je vois pas les choses comme ça. Les fake news, il y en a toujours eu. On a toujours à la table du café raconté des bobards. Alors évidemment, ils ont maintenant une rapidité de diffusion, une puissance considérable. Mais ça change pas le phénomène dans le fond. Moi, je me méfie des gouvernements qui veulent légiférer contre les fake news, comme en France. Je me méfie parce que c'est peut-être aussi une façon, à un moment donné, de limiter la liberté d'expression. N'oublions pas que la plus grande fake news du début de siècle, ça a quand même été... le mensonge sur l'Irak, les preuves inventées, bidonnées par le gouvernement américain pour faire une guerre qui a encore des effets terribles aujourd'hui. Alors, vous comprenez, quand j'entends les gens de Washington parler du combat contre les fake news, je suis un tout petit peu méfiant. Donc, faisons attention avec ce mot de fake news. Évidemment, le journalisme, c'est démonter un certain nombre de légendes. Mais ne faisons pas une fixation de ce sujet. Encore une fois, ça a toujours existé. Pour alléger un tout petit peu le propos et pour le conclure, j'ai lu récemment un livre sur la bataille de Marignan. Et c'est un chercheur français qui a vraiment étudié ça formidable du point de vue français, comment ils avaient vécu la bataille de Marignan. Ce qui est extraordinaire, c'est que François Ier, il n'avait pas les troupes comme ça, d'État, qui pouvaient lancer contre les Suisses qui s'installaient dans le nord d'Italie. Il lui fallait convaincre les différents princes, petits nobles locaux, de mettre à disposition l'argent et les soldats pour entrer en guerre contre les Suisses. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a engagé des troubadours pour aller dans les villages, dans les villes, réciter des poèmes et faire des chansons pour dire que les Suisses étaient d'affreux sauvages. Les Suisses étaient des affreux, des montagnards, incultes, brutaux. On peut pas laisser ces brutes Suisses aller vers les trésors de la civilisation italienne. Il faut que nous, faut qu'on y aille, nous Français. La plus grande opération d'infiltration des esprits, si vous voulez, c'était avec les troubadours. Alors bien sûr, maintenant, on a les sites russes qui de temps en temps font des liens sur Facebook, mais on est encore des enfants de cœur. Il y a eu dans les époques antérieures des gens tout aussi malins que les auteurs de fake news, qu'ils soient de quelque bord qu'ils soient.
Grazie mille, perché se qualcuno si aspettava che venisse per pleurnicher, vuol dire che brutto momento, no, lo vediamo combattivo, è venuto a portarci un messaggio veramente positivo che spero di poter sottoscrivere, ci devo riflettere, vorrei avere il tuo ottimismo, ma chissà, quei complimenti al Ticino per la resistenza nel pluralismo mediatico, beh, chiaramente l'anno scorso abbiamo perso un compagno di viaggio, però cercheremo di resistere. È chiaro, mi chiedo quanto questa illuminazione, che serve a una presa di coscienza, è già presente, perché questi temi si discutono dove? Non è che se ne senta discutere tanto in questo modo, si hanno dei frammenti di dibattito, se ne occupano i tecnici, se ne occupano le redazioni, ma io i politici sinceramente non li ho sentiti molto parlare in modo avveduto, informato di quello che succede, perché in fondo sono delle idee, quelle che lei ha esposto, molto concrete, fare pressione, fare la ricerca, l'innovazione, imporre delle società che scremano la pubblicità danneggiando poi la piazza dell'informazione elvetica, però mi sembra che in fondo questo dibattito non sia ancora stato lanciato, mi sbaglio? Est-ce que je me trompe? Est-ce que le débat est déjà lancé?
Non, 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 il ne l'est pas. Il ne l'est pas, c'est clair. Tout ce que j'ai dit là, c'est un appel au débat, n'est-ce pas? Et alors, si on fait un appel au débat, je pense qu'il faut donner la parole au public.
Ouais. Si, non, ça fait qualcuno di voi, ecco, Enrico, signor Morresi, che è anche coautore del libro che è stato pubblicato. Prego.
Mi esprimo in italiano perché penso che Shaquille conosca, riesca a capire bene una domanda in italiano. Secondo me il problema del finanziamento pubblico dei giornali sta uscendo adesso, nell'attualità, non di quest'anno elettorale, ma presto, già in Consiglio nazionale, al Parlamento nazionale ci sono delle mozioni, il Consiglio federale per intanto è molto restio, continua a dire che nella Costituzione non è previsto, se non è previsto si può prevederlo e fare un articolo costituzionale nuovo, però ci sono già gli schieramenti precostituiti. Edito, che è il giornale dei giornalisti, ha pubblicato un'inchiesta fatta presso i partiti per sapere che cosa pensano del finanziamento pubblico dei giornali. E ci sono già gli schieramenti definiti. I socialisti sono a favore, i liberali sono contro. Ora, non è partita neppure
discussione.
La domanda, l'elaborazione del tema, che cosa dobbiamo pagare a chi? Secondo me non bisogna essere dogmatici come i liberali, scusate che siamo in un club piuttosto liberale, radicale, ma questa è la realtà del Partito Radicale Democratico Svizzero. Non dobbiamo ancora una volta metterci dalla parte di chi dice ogni intervento dello Stato è una limitazione della libertà di stampa, perché queste sono idee vecchie, non è più il caso. In Italia, in Francia, in Scandinavia c'è il finanziamento pubblico dei giornali e nessuno dice che i giornali sono al seguito dei poteri pubblici. Questo intanto. E poi può essere una soluzione transitoria. Una soluzione transitoria che però aiuta a salvare il salvabile, perché soprattutto nella Svizzera tedesca e in parte francese il disastro è già stato fatto. In Svizzera tedesca sono morti quasi tutti i giornali locali. In una Svizzera federale in cui si vota cantone per cantone, comune per comune, il fatto che il giornale di Uri sia fatto a Zurigo non va bene. Il giornale di Uri deve essere fatto a Uri o al massimo a Lucerna. Il disastro, cioè il guaio, è già stato commesso. Quindi anche il finanziamento pubblico dei giornali arriva tardi, ma arriva ancora in tempo e sarà transitorio, perché la soluzione vera sarà far pagare ai grandi dell'informazione, a Google, a Facebook, a compagnia bella, e con le imposte che devono pagare come tutti gli altri imprenditori di questo pianeta.
Ecco, grazie Morresi. Ha una domanda diretta per, ecco, se su questo punto finanziamento diretto ai giornali, ma poi come soluzione solo transitoria, poi bisognerà appunto avere delle misure molto più incisive come quelle che lei ha citato, che mi sono parse francamente innovative e anche urgenti comunque. Cosa ne pensa?
No,
ma petite réserve par rapport à cette demande, c'est que je connais bien la France et le monde de la presse. Et comme vous le dites, l'État a beaucoup aidé les journaux sans aucune atteinte à la liberté de presse. Un journal comme L'Humanité, le journal communiste, il vit par les subventions. Malheureusement, il est en train de mourir. C'est le seul problème. Libération vit accrochée aux mamelles de l'État. Et ça n'empêche pas Libération de critiquer l'État. Vous avez raison. Mais là, le fait est là. Ces subventions ne sauvent pas des journaux mourants. C'est pour cela que, personnellement, je suis plus en faveur de la création d'un fonds d'aide qui serait alimenté à la fois par les pouvoirs publics, la Confédération, peut-être aussi les cantons, peut-être même les privés, un fonds vraiment structuré, puissant, qui puisse financer des projets. Alors, les journaux mourants, ben, ils doivent présenter un projet. Qu'est-ce qu'on va faire de mieux? Comment est-ce qu'on va se développer? Qu'est-ce qu'on va changer dans notre distribution? Qu'est-ce qu'on va changer dans notre formule? Une fois qu'on a un projet, ben, il y a une aide au projet, si vous voulez. Il faut que si une aide arrive, et il faut qu'elle arrive, elle soit pour préparer le rebond, le sursaut, l'avenir, mais pas prolonger la vie des mourants. Faut pas faire d'acharnement thérapeutique, comme on dit en médecine, hein. Voilà. C'est ma position. Alors, ce qui me frappe depuis que ce débat est lancé, par les journalistes qui créent justement des lieux de débat pour ça, il est également animé par les partis politiques. Vous le dites, tout le monde est pour. Hein. Les sociales à gauche, ah oui, il faut faire ça. À droite, oui, oui, il faut faire ça, etc. Mais comme par hasard, il n'y a rien qui se passe. Notamment au plan cantonal non plus. Je vous assure, quand Hebdo a disparu, c'était un choc pour la Suisse romande. On a vu nos hommes politiques de gauche et de droite manifester contre la fermeture de l'Hebdo sur le pont Bessières. Hein. Il y avait 300-400 personnes qui baladaient avec des pancartes. Il y avait des conseillers d'État, le syndic de la ville. Oh, ils étaient tous là. On est avec vous. On est avec vous. Et puis, comme on n'a rien. Et puis, ensuite, comme petit groupe, à la suite de ces circonstances, sans continuation, dans la suite, essaye de faire une expérience journalistique, alors là, tout d'un coup, il n'y a plus personne. Tout d'un coup, je vais être très concret. Il y a un site excellent en Suisse allemand qui s'appelle Infosperber, très bon. Ils ont le statut d'utilité publique, c'est-à-dire que les gens qui donnent, font des dons, peuvent soustraire ça des impôts. C'est un encouragement. Alors nous, on a dit, ben, c'est le même boulot qu'Infosperber, en gros, hein. On va demander le statut d'utilité publique. Ah non, ça pose des problèmes juridiques. Non, 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 ça on peut pas. Oubliez les grands discours sur le pont Bessières, oubliez. Donc moi je me méfie un peu des belles paroles hein, des partis politiques sur le sujet. Moi j'attends de voir des actes. Mais il faut une pression, évidemment, non seulement des journalistes, parce que c'est pas les journalistes qui sauvent leur peau. Vous avez raison de dire que le désastre, c'est pas seulement un désastre pour des journalistes ou pour des petits éditeurs, mais c'est un désastre pour la société. Quand on n'a plus le moyen de se retrouver, d'échanger sur nos affaires qui nous touchent, ben on est appauvri. Ou alors on se réfugie sur les réseaux sociaux dans un chaos total.
Merci. Qualcun altro ha un intervento, una domanda da fare? Prego, Venanzio.
La profession de journaliste, je ne suis pas journaliste. J'ai bricolé dans l'enfance avec le vieux ouvrier. Mais cette profession de journaliste, ce qu'on constate, c'est qu'il se passe plus ou moins le même phénomène qu'avec la classe politique. Donc, si les journaux de parti ont suivi le destin de leur parti, maintenant, même les journaux qui sont plus des journaux de parti suivent un peu le destin des partis politiques, dans le sens que père de foi, l'institut d'affiliation, ils ont, d'un côté, c'est les potes qui mangent, le soutien, la participation, d'un côté, c'est les abonnements. Hein? Mais la profession journaliste aussi, elle suit une évolution, disons, de crédibilité, mais même de qualité, de prestige, qui n'est pas très positive. Si on regarde aussi les grands noms du journalisme qui posaient leur nom et leurs articles sur des journaux italiens, français, etc., une nouvelle génération de journalistes avec un pareil poids, une pareille crédibilité, ou même une pareille capacité de décrire, d'écrire, et d'investiguer, de rechercher, on a de la peine à voir. Il faut dire qu'après, si on parle des sites d'information online, etc., alors là, je ne sais pas si on peut encore les appeler des journalistes, c'est vraiment de faire une activité professionnelle qui, je crois, pour eux-mêmes, pour ces jeunes qui pratiquent, pas seulement une question de salaire, etc., mais ce qu'ils font, je crois, c'est pas du tout l'aspiration qu'ils avaient, comme ils ont imaginé de parcourir ce chemin. Voilà.
Merci. Alors, une grosse question. Que devient le métier de journaliste ? Vous avez raison de pointer le fait que les journalistes subissent le même discrédit que la classe politique. Très souvent, ils sont assimilés. Et c'est vrai que les journalistes se sont souvent assimilés à la classe politique. Il y a eu une époque où le correspondant à Berne de tel journal, il était fier de me dire « Je tutoie trois des conseillers fédéraux !» Ah, formidable, c'est extraordinaire, comme palmarès. Le problème, c'est que il était entré dans la logique, dans le langage, dans la pensée de ces hommes politiques qu'il fréquentait tous les jours. Et il s'éloignait des lecteurs. Et je pense que la grande leçon de ces phénomènes qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est que précisément le journaliste doit écouter les gens, amener des débats peut-être qui ne figurent pas à l'agenda des partis. Il y a beaucoup de sujets qui ne figurent pas à l'agenda des partis, qui sont importants. Dès l'instant, les journalistes, non seulement font leur travail au quotidien sur les sujets qui émergent, mais s'ils font leur travail en allant chercher les sujets qu'on ne veut pas, qu'on veut cacher, qu'on ne veut pas faire apparaître, à ce moment-là, on se dira, oui, ces journaux, ils agitent quand même un peu le Landerneau, ils agitent un peu la scène, on a besoin d'eux. S'ils font que répercuter, en gros, ce qui se dit à Berne, ils sont foutus. Donc, je crois que là, on a vraiment un défi, mais c'est un journalisme offensif, qui de temps en temps se fâche. Et on a eu en Suisse romande des journalistes qui ont fait des choses extraordinaires, comme vous pensez à, je sais pas, moi par exemple, pendant la guerre d'Algérie, vous aviez un journaliste, Jean-Henri Favreau, qui racontait la guerre d'Algérie aux Français. C'était tellement bon, ces enquêtes, tellement libre, parce qu'il était libre dans sa tête, que finalement, les Français lisaient ce journal fait à Lausanne, enfin, des Français lisaient ça, parce que il apportait quelque chose d'original. Donc, je crois vraiment que c'est dans la responsabilité de ce que j'appelle le journaliste citoyen. Si le journaliste citoyen se met en mouvement, il représentera de nouveau quelque chose pour le public. S'il est simplement là pour servir les plats, eh bien, il disparaîtra.
C'est peut-être aussi la façon d'apprendre aussi aujourd'hui oui. Le métier de journaliste. Ah. Nous, par exemple, au Tessin, on a à l'université,
oui.
Sciences de la communication.
Oui.
Alors ça, on le voit aujourd'hui, parce que on fait une confusion énorme entre journalisme
Très
et
important.
Communication.
Très important, alors, ce que vous dites
là. Oui, parce que, par exemple, dans les rédactions où on a de moins en moins de temps pour écrire, on est sous pression. Par exemple, il y a UBS qui envoie son truc, il y a Novartis qui envoie son rapport. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont très bien faits, ces trucs. C'est du marketing exceptionnel de la qualité que ces grandes entreprises offrent aux journalistes. Ils sont tellement bien que le journaliste, ayant très peu de temps, ils reprennent le truc, c'est des velinari, non? C'est ça le problème aussi.
Ah, vous n'auriez pas dû me lancer sur ce sujet parce que il est très sensible.
Oui.
Confusion entre communication et journalisme. C'est terrible. C'est le cas à l'université à Genève, c'est le cas également à Fribourg, c'est le cas ici, et même un peu à Neuchâtel, un peu moins au master de Neuchâtel, c'est plus journalistique, mais malgré tout. Et finalement, on a une confusion entre deux métiers qui sont contraires, complètement antagonistes. La démarche intellectuelle du journaliste, c'est exactement le contraire de la démarche intellectuelle de la jeune relation publique. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a une prolifération de ces agents de communication partout. Alors ce qui se passe, c'est que souvent vous avez une classe de master de journalisme à Neuchâtel, puis vous avez 20 jeunes qui veulent faire du journalisme. Puis ils étudient, voilà, ils payent le master, c'est payant et tout ça, bon, etc. Et à la fin, vous avez 3 sur 4 qui rentrent dans les administrations publiques ou dans les compagnies pour faire de la communication. C'est une confusion totale. Et je trouve quand même, d'une certaine façon, choquant que les pouvoirs publics payent finalement des formations, parce qu'ils financent les universités, hein. Les pouvoirs publics payent des formations de communicateurs, mais pas véritablement de journalistes. Donc là, on a un très gros problème. Et vous décrivez admirablement ce qui se passe dans les rédactions. La sophistication des moyens du marketing des sociétés, c'est extraordinaire. Hein. C'est que non seulement on vous envoie un communiqué, mais on vous envoie une jeune femme vraiment intelligente, vive, et pas moche du tout, qui vient vous expliquer ce qui... Non mais, je vous connais, vous êtes un excellent journaliste. Mais là, franchement, vous êtes un peu à côté. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Et puis, on endoctrine les journalistes. C'est une façon absolument extraordinaire. Maintenant, on a une situation, un sujet extrêmement intéressant, qui est peu traité d'ailleurs, je trouve, un peu quand même. C'est le vol des pharma. Les pharma qui sont en train de foutre en l'air le système de santé en facturant des prix insensés pour les médicaments. Hein, je lisais des professeurs, président d'une société d'oncologie, un grand oncologue, qui disait que Roche commet ein Betrug. C'est incroyable. Vous avez une sommité médicale qui accuse Roche d'escroquerie carrément. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est intéressant aussi. Le journaliste qui a signalé ça a envoyé la citation à Roche. Vous avez quelque chose à dire? Pas de réponse pendant 4 jours. Puis après 4 jours, une réponse. On n'a pas de réaction. Mais, dans les jours qui ont suivi, tout l'appareil de communication de Roche s'est mis en marche, en douceur, en activant les gens qu'on connaît. Ah, mais tu connais le rédacteur en chef, tac, 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 pour éteindre l'incendie qui pouvait éventuellement se propager. C'est formidable de voir ces rapports, hein. Mais c'est pas neuf. Quand on me dit, un des problèmes de la presse actuelle, c'est les pressions. Vous savez, il y a toujours eu des pressions, hein. À toutes les époques, il y a eu des pressions politiques, des pressions commerciales. Mais maintenant, ces pressions, elles se font pas directement, elles se font par tout un appareil pour exercer ces pressions sur les malheureux journaux qui restent.
C'è ancora qualcuno che vuole fare una domanda? Prego.
Bonjour, Nicolas Savioli de Carreau. J'ai une petite question suite de votre réflexion qui je me suis souvenu d'avoir lu le livre de Laurent Alexandre sur la guerre des intelligences entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Alors, vous avez mentionné que Google, ce sont des pirates, les informations. Google, ils ne perdent pas seulement les informations, ils sont en train de faire des recherches et ils investissent beaucoup dans l'intelligence artificielle. Donc ma question, est-ce que la crise des journaux, des journalistes, ce n'est pas la crise de l'homme, du cerveau humain, et ce n'est pas le prélude d'un journal d'intelligence artificielle, globale, qui tout prend et qui tue tous les opinions. Merci.
Orwell. Merci. Je ne le pense pas. J'ai parlé de ce sujet qui me tracasse, comme vous, avec notamment des grands spécialistes d'intelligence artificielle à l'université de Fribourg, qui rentraient d'un voyage en Chine où ils avaient vu les start-up de pointe, etc. Et ils me disaient, pourtant c'est des spécialistes, eux ils connaissent tout ça, pour eux les algorithmes, et voilà, c'est leur monde. Hein. Ils disaient, au fond, il y a une intox autour de l'intelligence artificielle. Elle va changer une multitude de tâches dans la vie quotidienne, dans la santé, etc. Mais l'intelligence artificielle est en réalité stupide parce qu'elle ne fait que ce qu'on lui dit de faire. Et dès l'instant où on fait un pas de côté dans la demande, elle ne sait plus rien. Même les robots les plus sophistiqués, ils savent faire une chose, on leur a appris ça. Mais dès qu'on change un tout petit peu la demande, le robot est perdu. Par définition, le robot, l'intelligence artificielle, n'est pas créatif et désorienté devant la surprise. Alors évidemment, il y a des gens qui sont assez malins pour utiliser ces outils, eux, pas avec un projet commercial, économique, idéologique, tout ce qu'on veut, mais en soi, le robot n'est pas une menace. Je ne crois évidemment pas une seconde qu'un journal se fera avec l'intelligence artificielle. Ça, c'est un gag. C'est un vrai gag. Là, alors, les journaux qui veulent faire ça, ils accéléreront leur disparition. Hein, parce qu'alors, si on commence à choisir justement les informations par un mécanisme, finalement, on tue même l'intérêt d'un journal. On n'a pas besoin de ça. Donc, je ne suis pas du tout pessimiste de ce côté-là. En revanche, c'est vrai que Google, il utilise ses algorithmes assez stupides pour simplement mettre les gens ensemble, notamment sur Facebook surtout, pour mettre les gens ensemble par leur affinité. C'est au fond assez stupide, enfin, c'est assez primaire hein, comme démarche, hein, c'est pas très sophistiqué. Évidemment, ça a comme des effets parce qu'on ferme les gens dans un petit monde, dans le monde de leur dada, c'est vrai, bon. Moi, j'ai quand même une crainte, si vous voulez, c'est que c'est pas tellement l'intelligence artificielle au sens de la création d'un journal, ça j'y crois pas du tout. Je crains un peu les processus d'intelligence artificielle pour la surveillance de ce qu'on écrit. Hein, c'est vrai que on a quand même un pays qui a une certaine expérience de la surveillance des citoyens. Je pense à la Chine, qui a poussé la surveillance des individus à un degré qu'on n'a jamais vu dans l'histoire. Hein. Orwell, il est complètement dépassé, là. Alors, et les Chinois mettent en place des technologies d'observation de ce que les gens disent, écrivent, extraordinaires. Et ça, évidemment, ça me fait peur, parce que un jour, des pouvoirs peuvent être intéressés d'acheter telle ou telle de ces machines. Mais il n'y a pas de souci à se faire, hein. Ça c'est Swisscom qui l'a dit. Swisscom confie tout le système des antennes 5G à Huawei, qui est un organisme d'État proche du Parti communiste et des services secrets. Pas de problème. Les Chinois ont promis, ils vont pas chercher des informations sur ce qui circulera dans ces antennes. Non, pas du tout. Ils sont tellement respectueux des règles. Alors, évidemment, c'est vrai que quand on voit la naïveté des Suisses face aux Chinois, c'est vrai qu'on a un petit peu de souci à se faire.
La beauté électronique.
C'est comme la Poste qui fait des tarifs spéciaux à Amazon, pour la livraison des paquets, pour mieux tuer le petit commerce. Vous mourrez, cher petit commerçant. On va vous aider. On va vous aider à mourir. On va aider le grand Amazon à livrer les produits à votre place. Tant de choses à dire, tant de sujets. C'est intéressant d'être journaliste dans un pays où il y a tant de sujets. Pardon ? Oui. Oui. La Poste est un organe 100% d'État qui peut aussi réfléchir aux conséquences de sa politique tarifaire en dehors du dogme libéral. C'est mon avis, mais...
Oui. C'è
vero.
Penso che siamo arrivati a un buon punto. C'è ancora qualcuno che aveva una domandina? Io credo che Jacques Pilet ci ha portato veramente un soffio di informazioni molto interessanti sulla problematica, che è scottante, perché non tocca solo le redazioni, i giornalisti, gli editori che fanno il business, ma tocca il lettore cittadino, o meglio, il cittadino lettore, e poi elettore, e poi. Quindi tocca veramente noi, nel nostro intimo, nell'esercizio delle nostre libertà. La posta in gioco è molto alta, e sono contenta che esco con una visione, diciamo, un pochino più positiva, perché ho capito, grazie a quelle, agli esempi che hai fatto, dove bisogna battersi per ottenere qualche cosa, non tra 10 anni, quando tutto oramai sarà trasformato, ma adesso, per evitare che ciò che resta venga chiuso e che le voci del pluralismo elvetico possano resistere. Mi auguro che questo messaggio da qui magari possa diventare qualcosa anche per diffondersi attraverso la rete, quindi che la voce di Jacques Pilet davanti a questa platea entri e raggiunga anche altri, magari altre persone che si occupano, per esempio, della formazione dei giornalisti. Da noi la formazione è ancora fatta dal cantone. Il cantone è anche ciò che si occupa, tramite un'associazione, di dare delle nuove competenze ai giornalisti, quindi di capire anche in che mondo si stanno muovendo e come cambiano le cose. Ecco, questo è anche importante: non vengono formati all'Università della Svizzera Italiana, ma hanno un loro corso finanziato a parte, dove si è molto sul pratico, si è veramente incentrati sul mestiere del giornalista. Ringrazio Jacques Pilet per il suo contributo, ringrazio voi dell'attenzione e soprattutto il club per l'idea di aver scelto, direi, un argomento che forse meriterà anche altre puntate, perché sicuramente non è finita qui, anzi siamo proprio agli inizi di un grande cambiamento che ci auguriamo ci permetta di rimanere liberi cittadini, di poterci esprimere e ricevere informazioni che abbiamo bisogno per essere esseri pensanti. Grazie, buona serata.